Qu'est-ce que je viens d'entendre? Isabelle Balkany à la Légion d'honneur. Isabelle Balkany vient d'avoir la Légion d'honneur. Joyeuses habitantes de Levallois-Perret, faites-nous part de vos impressions, faites-nous part de vos souvenirs, faites-nous part de vos expériences. À bientôt.
Daniel, bonjour et bonjour à toute l'équipe. Ce lundi 4 février va être un grand jour dans la vie politique de notre pays. Le Congrès, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, donc le Congrès se réunira à Versailles pour modifier notre Constitution afin de permettre la ratification par le Parlement du nouveau traité européen sur lequel tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est tout à fait semblable à celui que nous avons rejeté le 29 mai 2005. Alors, l'UMP et le Centre n'ont pas, à eux seuls, la majorité requise des 3/5 pour gagner ce vote. Si cette modification de la Constitution n'est pas acquise, notre président devra procéder à un référendum. C'est tout simplement ce que nous demandons. Alors, au nom de la démocratie, et vu le mutisme des grands médias sur le sujet, nous sommes nombreux à lancer un double appel. Le premier, en direction des députés et sénateurs, de gauche en particulier évidemment, pour qu'un sursaut citoyen les anime au moment de ce vote et qu'ils ne déçoivent pas le peuple. Le deuxième, en direction des citoyennes et des citoyens, pour qu'ils manifestent massivement, pacifiquement, festivement à Versailles ce lundi, tout près du château, à partir de midi. Le vote solennel aura lieu à 16h. Il existe plein d'infos sur le site « Nous voulons un référendum » en un seul mot. Il faudrait bien sûr que les franciliens tout proches soient très nombreux. Pour la province, des cars sont organisés. Pour ma part, j'ai pris un jour de congé, je vais passer 2 nuits dans le bus, mais ma conscience me dicte d'y aller, et alors j'y vais. Ciao, ciao. C'était Jean-Claude de l'Ardèche.
Bonjour à tous les amis de là-bas si j'y suis. C'est un appel à tous les habitués du repère de la moto cochon près de Nantes. Voilà, donc nous nous réunirons comme tous les premiers dimanches du mois en ce dimanche 3 février à 17h. Voilà, donc rendez-vous est pris, venez nombreux, nous palabrerons jusqu'à pas d'heure. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Bernard. Je pense à tout ce que j'entends, là, 35 000 euros ou 40 000 euros de coiffure, de maquillage pour l'un, 50 000 pour l'autre, 10 000 euros pour un chapeau. C'est... tout augmente. Ça, c'est vraiment... Et moi-même, je ne me sens pas très bien. Enfin bon, l'autre, il se trompe de touche, hop, 5 ou 7 milliards, on sait plus. C'est extraordinaire. On dit que la France est en faillite, mais enfin, je trouve que tout va bien, en fait. Ah bon, le chapeau à 10 000 euros, ça le fait quand même, hein, grave. Enfin, voilà. Bon, enfin, ceci dit, moi, j'énerve 5 avant, là, hein, 1 000 euros. Alors, si il reste un peu de pognon dans les caisses, n'hésitez pas, hein. Vous me contactez là où vous savez. Salut.
Bonjour, Daniel. Bonjour à tous. C'est ici Yves, dans le Gard. Je vous signale que le samedi 2 février, à partir de 19h, le réseau Éducation sans frontières du Gard organise une fête de soutien dans le village de Saint-Julien-les-Rosiers. C'est entre Alès et Saint-Ambrois, au complexe sportif de Saint-Julien-les-Rosiers. Il y aura de la musique, de la bonne nourriture, de quoi boire, évidemment, et de quoi passer une excellente soirée avec un disque jockey des musiques du monde, Oncle Tom, et puis du funk avec Funky Tough. Bien sûr, c'est une fête de solidarité avec les sans-papiers, c'est organisé par ROSF 30. Et puis, message personnel, j'embrasse Irène de Lyon. Je suis sûr que quelqu'un de Lyon va garder son chien pendant un mois et demi. Je l'embrasse et je vous embrasse tous. Au revoir, merci. Donc, samedi 2 février, à partir de 19h à Saint-Julien-les-Rosiers, et c'est dans le Gard.
Et oui, merci pour vos messages et merci pour Irène, évidemment. Il y a eu énormément de messages pour garder le chien d'Irène pendant qu'elle doit subir cette opération. On parle de solidarité, on dit qu'il n'y a plus de solidarité dans ce pays. Ben, je peux vous dire en tout cas qu'il y en a dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Donc, merci à tous et à toutes. Il y a plus de femmes, c'est vrai, de voix féminine en tout cas, pour venir... Donnez un coup de main à Irène, mais vous êtes vraiment, comme disait Pierre Belmar, vous êtes formidable. Vous vous souvenez de cette émission qui était sur Radio Luxembourg, je crois, autrefois. Nous, aujourd'hui, on va faire une heure contraire aux bonnes mœurs, je vous préviens. Une heure pour débaucher les oreilles. Et là, on a un alibi formidable, c'est une exposition, tout ce qu'il y a de culturel à la Bibliothèque Nationale de France. Alors là, dites donc, hein, on n'est plus dans les buissons, là, on est vraiment au balcon. Où, vous le savez, hein, vous avez entendu parler, on vous a rebattu les oreilles avec cette exposition. J'espère que vous y êtes allés parce que ça vaut vraiment le coup, c'est le cas de le dire. L'enfer de la Bibliothèque Nationale, Eros au secret. C'est jusqu'au 2 mars prochain et ça raconte en objet, en écrit, en photo, en petit film court, ce que fut cet enfer et donc cette censure qui régna en France jusque quand, je vous le donne en mille, jusqu'en 1969. Un effet de 1968, puisqu'en cette année 1968, une exposition était prévue à la Bibliothèque Nationale sur Apollinaire, et on trouva que, Apollinaire, oui, mais enfin, il y avait quand même des aspects de son œuvre qui étaient cachés. Alors, ça a eu pour effet que l'année suivante, on abolit cet enfer. C'était un effet de 68. Vous savez que les commémorations pour le 40e anniversaire de 1968 vont commencer déjà, et c'est très drôle, ça commence très fort avec le journal Libération qui se réclame de mai 68. On va voir, vous savez, c'est comme au temps de l'Union soviétique où vous aviez les granitiques qui commémoraient la révolution d'octobre. Là, ça va être les renégats qui vont tous défiler, se souvenant, émus, et racontant à nouveau leur vieille histoire. Encore faut-il, évidemment, quand on est un renégat, avoir quelque chose à renier. Enfin, on en parlera ces jours-ci, mais tout ça est un peu lié quand même, hein. Cette exposition sur Eros, sur l'interdit, sur l'enfer de cette bibliothèque, sur l'érotisme, sur la pornographie, etc. Eh bien, c'est quand même un AQ de 68, peut-être pas tout à fait, mais enfin, c'est lié, évidemment, à cette période de notre histoire et à la formule fameuse et géniale « jouir sans entrave ». C'est ce que nous allons faire jusqu'à 16h dans la basse où j'y suis. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse où j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut tout le monde, j'appelle pour annoncer la tenue mardi prochain, comme chaque premier mardi du mois d'ailleurs, la tenue à Genève du Café Repère des AMG au Café Gervaise, au 4 bis boulevard James Fazi. Je laisse aussi le numéro de téléphone, c'est le 022 738 90 66. Faut mettre l'indicatif si vous appelez de la France bien sûr, donc je répète. Mardi prochain, à tenue du Café Repère, au Café Gervaise, comme tous les premiers mardis de chaque mois. Venez nombreux, nombreuses, à plus, ciao!
Bonjour Daniel Mermet. Vendredi 1er février à 20h, la section locale de la Ligue des droits de l'homme de Martel, dans le Lot, présente au cinéma associatif Luxello de Vérac le film de Christian Rouault, Les Lippes, l'imagination au pouvoir. Donc tous les amis du pays de la vallée de la Dordogne lotoise sont attendus pour venir débattre avec Charles Piaget, leader de cette grande bataille syndicale des débuts des années 70, où le personnel de l'horlogerie Lippe de Besançon a lutté pour la préservation de leur outil de travail. Nous attendons beaucoup de monde et beaucoup de questions. Au revoir, bonne journée.
Bonjour. La prochaine réunion du repère de la Bâche et j'y suis aura lieu ce vendredi 1er février à 20h30 à l'ambassade jurassienne, ancien hôtel de la Poste à Nance-sous-Sainte-Anne, dans le Doubs, près des sources de Lison. Le thème sera « Où en est le mouvement syndical en France ?» avec le sociologue Ubiali. À bientôt.
Oui, bonjour, je viens d'écouter Norman Bayarjon, là, c'est magnifique, là. Alors, la servitude, il parlait de la façon dont les nazis ont manipulé les gens pour leur la Shoah, etc. Eh ben, moi j'ai sous les yeux un exemple plus récent et qui me concerne directement, enfin qui nous concerne, c'est les soldats en Algérie, la servitude. Il y a eu 1 200 000 soldats qui ont fait une guerre sans nom, c'est-à-dire qu'on ne nommait pas la guerre, et il y a eu 1 200 réfractaires, soit 1%. Bon, c'est déjà bien, parce que c'est à peu près la même chose dans toutes les armées, au Vietnam autrefois, ou en Israël aujourd'hui, enfin en Tchétchénie, bon, enfin bref. Donc 1%, eh ben, moi je fais même pas partie de ces 1% de mon temps, mais par contre, je suis en train de travailler tout ça, c'est dans « Ils ont dit non à la guerre sans nom » de M. Tramor Kemener, c'est mis en ligne depuis peu sur www.ldh-toulon.net. Et voilà, donc c'est à consulter, c'est magnifique, c'est, ça m'a été envoyé par l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Et puis, bah, il ne faut pas être servile, c'est sûr, et puis bravo, et puis je vais trouver ça avec les illustrations de Charbes. Donc c'était Rémi à Saint-Nazaire, et continuez comme ça, bravo, ciao.
Encore ? Encore ? Je le refais encore ? Ah. Ah, plaisir. Ah, je meurs aussi crié, je me sens plus... Je me bats. Jamais je n'ai eu tant de plaisir.
Elle a une très très bonne nature.
Une langue mystérieuse sort de ce cou et vient chercher la mienne pour gamaïcher.
Je passe un deal en quelque sorte avec vous. Je suis sûre que vous n'arriverez pas à ne pas vous masturber pendant ces lectures.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Florence Botte, flûte de jade et Buisson Ardent.
Flight number 2, arriving from New York.
À l'aurore, au petit matin, livré aux songes et aux mensonges, ouverte aux baisers clandestins, sa moniche couleur d'orange évoquait un cratère éteint. Guillaume Apollinaire. Phallus en l'air, coudrier nain, les enfants du Péloponnèse ont de jolis palmiers en zinc pour enculer les Polonaises. Petites filles qui relèvent leurs robes et se branlent dans les buissons ou dans les musées derrière les Apollos en plâtre, pendant que leur mère compare la queue de la statue à celle de son mari et soupire « Ah, si mon mari lui ressemblait !» Louis Aragon ou Benjamin Perret. Les petites filles qui relèvent leurs robes et se branlent dans les buissons ou dans les musées derrière les Apollos en plâtre, pendant que leur mère compare la queue de la statue à celle de son mari et soupire « Ah, si mon mari lui ressemblait !» Louis Aragon ou Benjamin Perret.
Bonjour, je suis Marie-Françoise Quignard, je suis conservateur à la Bibliothèque nationale de France, à la réserve des livres rares, et je suis commissaire, un des commissaires de l'exposition L'enfer de la bibliothèque.
Josué Sekel, conservateur à la Bibliothèque nationale de France également, au département de recherche bibliographique, et j'ai donc travaillé à l'organisation de cette exposition avec Marie-Françoise Quignard.
Alors on entend des voix de gens très sages, très sérieux, commissaires, etc. Et derrière, vous, Marie-Françoise,
oui,
j'aperçois des gravures qui ne laissent aucun doute sur leur nature.
C'est des gravures de l'Arétin, c'est des gravures qui circulaient dès le XVIe siècle et qui ont continué à circuler jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est effectivement les postures des dieux, donc des postures...
Des positions.
Des positions, oui, c'est ça, qui sont très suggestives, enfin, qui peuvent absolument donner envie. Et c'était quelque chose qui circulait beaucoup. Et surtout, disons, au XVIIIe siècle, où... quand ça correspondait au roman libertin. Et donc, beaucoup de ces romans libertins, d'ailleurs, se sont servis un peu de ces gravures ou de ces postures pour agrémenter en quelque sorte les livres. C'est le cas, par exemple, de Thérèse Philosophe,
qui est un roman... C'est là que tout commence.
Ah oui, c'est là que tout commence.
Enfin, pour vous, en tout cas, c'est là
nous,
que tout commence.
Pour nous, c'est là que tout commence, parce que Thérèse, qui est une jeune femme, une jeune fille, on va même dire, de 25 ans, qui a... qui a un certain tempérament, qui...
Une bonne nature.
Oui, elle a une très... Elle a une très très bonne nature.
J'ai reçu de la nature une âme de feu, et la vie oisive et sédentaire du cloître entretient mon ardeur. N'ayant que cette jouissance, je ne vis et ne respire que pour elle. Tous mes soins sont portés là.
Dès l'enfance, elle s'est assez vite masturbée. Sa mère n'en était pas très contente et l'a mise au couvent. Ensuite, au couvent, elle a surpris des situations qui ne lui étaient pas destinées, mais qui l'ont mise là aussi dans tous ses états.
Oh, jamais je n'ai eu tant de plaisir.
Et puis, elle a partagé la vie d'une prostituée qui, paradoxalement, cette prostituée, elle aussi, était vierge. Mais ça n'empêche qu'elle avait beaucoup de succès. Et en fait, elle n'a jamais réussi à se donner véritablement à un homme, même si beaucoup d'hommes ont tourné autour d'elle. Et c'est le comte, son protecteur, qui l'aime véritablement, qui aimerait bien quand même consommer avec elle.
Vous aimez donc, mademoiselle Thérèse, me dites-vous en plaisantant, les lectures et les peintures galantes?
Et il trouve un subterfuge dans la mesure où, il n'y arrive pas. Il lui dit, écoutez, je vais vous proposer de faire venir ma bibliothèque de livres galants. Et
mes tableaux pendant un an?
Je passe un deal en quelque sorte avec vous. Je suis sûre que vous n'arriverez pas à ne pas vous masturber pendant ces lectures.
Sans porter même la main à cette partie. Sans cet arrangement, point de livre, point de tableau.
Et Thérèse prend ça de haut, considère, mais qu'est-ce que c'est,
Bien sûr, je saurais résister.
En vérité, monsieur, vous répondis-je d'un air un peu piqué, vous avez une idée bien singulière de mon tempérament. Et vous me croyez bien peu maîtresse de moi-même.
Elle va lire l'Académie des Dames, qui est un roman du XVIIe siècle. Et puis surtout, elle va lire aussi Dombourg, Portier des Chartreux, qui est vraiment un roman anticlérical.
Celle de la Tourière des Carmélites, les Lauriers ecclésiastiques.
Et en fait, elle va lire des romans, comme des romans de l'Arétin, comme Thémidor.
Thémidor, Frétillon, etc. Et nombre d'autres de cette espèce que je ne quittais que pour examiner avec avidité des tableaux où les postures les plus lascives étaient rendues avec un coloris et une expression qui portait un feu brûlant dans mes veines.
Là, elle est déjà en train de perdre ses moyens, et puis elle regarde des images lascives, et entre autres celle-là, enfin Mars et Vénus, en train de faire l'amour, et là elle se dit, non mais c'est pas possible, si les dieux font ça...
Quoi, m'écriai-je ? Les divinités mêmes font leur bonheur d'un bien que je refuse ? Oh, cher amant, je n'y résiste plus. Pareil, comte, je ne crains point ton dard. Tu peux percer ton amant, tu peux même choisir où tu voudras frapper. Tout m'est égal, je souffrirai tes coups avec constance, sans murmurer. Et pour assurer ton triomphe, tiens, voilà mon doigt placé.
Et voilà, et c'est grâce au livre, en fait, et grâce à l'image, qu'elle va se donner au comte et qu'elle va passer du stade de l'adolescence au stade de femme, enfin...
C'est un avertissement pour toutes les jeunes personnes qui viendront visiter
cette exposition qui risque de sortir dans un état...
Écoutez, oui, on ne sait pas. C'est un risque qu'on prend.
Je saisis sans hésiter la flèche qui jusqu'alors m'avait paru si redoutable et je la plaçai moi-même à l'embouchure qu'elle menaçait. Vous l'enfonçâtes sans que vos coups redoublés m'arrachassent le moindre cri. Mon attention fixée sur l'idée du plaisir ne me laissa pas apercevoir le sentiment de la douleur. Déjà, l'emportement semblait avoir banni la philosophie de l'homme maître de lui-même lorsque vous me dites avec des sons mal articulés « Je n'userai pas, Thérèse, de tout le droit qui m'est acquis. Tu crains de devenir mère, je vais te ménager. Le grand plaisir s'approche. Porte de nouveau ta main sur ton vainqueur. » Dès que je le retirerai, et aide-le par quelques secousses à... Il est temps, ma fille, je... Le plaisir. Je meurs aussi, criais, je me sens plus... Je me bats. Cependant, j'avais saisi le trait, je le serrai légèrement dans ma main, qui lui servait d'étui, et dans laquelle il acheva de parcourir l'espace qui le rapprochait de la volupté. Nous recommençâmes... Et nos plaisirs se sont renouvelés depuis 10 ans, dans la même forme, sans trouble, sans enfant, sans inquiétude. Voilà. Je pense, mon cher bienfaiteur, ce que vous avez exigé que j'écrivisse des détails de ma vie. Que de sots, si jamais ce manuscrit venait à paraître, se récrirait contre la lascivité, contre les principes de morale et de métaphysique qu'il contient. Je répondrais à ces sots, à ces machines lourdement organisées, à ces espèces d'automates accoutumés à penser par l'organe d'autrui, qui ne font telle ou telle chose que parce qu'on leur dit de les faire, je leur répondrais, dis-je, que tout ce que j'ai écrit est fondé sur l'expérience et sur le raisonnement détaché de tout préjugé. Oui, ignorant, la nature est une chimère, tout est l'ouvrage de Dieu. C'est de lui que nous tenons les besoins de manger, de boire et de jouir des plaisirs. Pourquoi donc rougir en remplissant ses desseins? Pourquoi craindre de contribuer au bonheur des humains en leur apprêtant des ragoûts variés, propres à contenter avec sensualité ses divers appétits? Pourrais-je appréhender de déplaire à Dieu, ni aux hommes, en annonçant des vérités qui ne peuvent qu'éclairer sans nuire? Je vous le répète donc, censeurs atrabilaires, nous ne pensons pas comme nous voulons. L'âme n'a de volonté n'est déterminée que par les sensations, que par la matière. La raison nous éclaire, mais elle ne nous détermine point. L'amour-propre, le plaisir à espérer ou le déplaisir à éviter, sont les mobiles de toutes nos déterminations. Le bonheur dépend de la conformation des organes, de l'éducation, des sensations externes. Et les lois humaines sont telles que l'homme ne peut être heureux qu'en les observant, qu'en vivant en honnête homme.
Ensuite, combien de personnes, s'il vous plaît ? Allez-y.
Et vous, quel est votre poste ici ?
Alors, je suis hôtesse d'accueil, en fait.
Comment expliquez-vous que les gens acceptent de faire une heure à une heure et demie de queue pour une exposition ?
Le fait que ça soit une exposition, je pense, érotique, en fait, ça attire peut-être beaucoup plus de monde que si on aurait abordé, ou la bibliothèque aurait abordé un autre thème. Ah, là, la blague, c'est est-ce que c'est ici l'enfer ? Donc, bienvenue à l'enfer. Il y a aussi, comme on a énormément, en fait, de files d'attente, enfin, je sais pas si ça se dit ou pas, mais c'est ici la queue, par exemple. voyez, c'est très fin. Donc voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est les principales blagues des visiteurs à longueur de journée. Voilà.
Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes ou l'inverse ?
Alors, au début de l'exposition, il y a eu beaucoup de personnes âgées, principalement masculines en fait. Mais de plus en plus des femmes, beaucoup de femmes, de jeunes femmes. Au fond, il y a un film qui est quand même, enfin moi je jugerais plus pornographique qu'érotique. Enfin, il y a un enfant à côté, c'est pas très sain, non ? Je sais pas.
Alors en tout cas au début il y a un texte de pour prévenir si je puis dire.
Voilà la définition de l'enfer selon la bibliothèque. Donc endroit fermé d'une bibliothèque où l'on tient les livres dont on pense que la lecture est dangereuse. Voilà la définition de l'enfer selon la bibliothèque.
Alors, l'enfer de la Bibliothèque nationale lui-même n'apparaît qu'au 19e siècle. Le mot enfer pour désigner la partie du bibliothèque est lui à une origine plus ancienne. Ce qu'on sait, et qui est un petit peu incertain tout de même, c'est que au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, à Paris, la bibliothèque du couvent des Feuillants, donc une bibliothèque d'un couvent, avait un enfer. Dans cette bibliothèque, qui était une bibliothèque d'ouvrages essentiellement théologiques, il y avait aussi des ouvrages hérétiques, je dis bien hérétiques et pas érotiques, c'est-à-dire des ouvrages de la religion prétendue réformée, des ouvrages calvinistes qui avaient été donnés par un converti à ce couvent, et comme c'est des ouvrages qu'il fallait que les moines connaissent pour mieux combattre l'ennemi, on les conservait bien entendu, mais on les conservait dans un endroit à part, qu'on a appelé l'enfer. Et ce qui est intéressant et piquant dans cette histoire d'enfer du couvent des Feuillants, c'est que cet enfer se trouvait dans le grenier du monastère.
Mais l'enfer véritablement ici à la Bibliothèque nationale, enfin dans la Bibliothèque nationale, c'était pas ici, c'est 1830.
Oui, c'est dans les années 1830, mais on sait que dès 1750, que les ouvrages considérés comme licencieux, on parlait tout à l'heure de l'Arétin ou de l'Académie des Dames, que ces ouvrages étaient mis à part dans la bibliothèque, et la preuve en est qu'en 1750, dans le premier catalogue imprimé des collections de la bibliothèque, à l'intérieur de la section des romans, on a consacré une section particulière aux ouvrages licencieux, et on trouve là une dizaine ou une vingtaine de titres d'ouvrages qui sont presque tous d'ailleurs représentés dans l'exposition, qui constituait ce qu'on pourrait appeler le premier enfer de la bibliothèque.
Lis-moi mon cadenas, serrurier de Sutter. Lis-moi mon cadenas. Ne crains pas d'en trop faire, ne me ménage pas. Lis-moi. On me fourrait au couvent, par ordre de ma mère. On me fourrait au couvent. Mais mon coup pour Sutter en décide autrement. On me fout. On me fourrait au couvent. Vite, au combat, chevalier. Hortense te défie. Vite, au combat, chevalier. Mais le chevalier plie. Hortense a beau crier. Vite au con. Vite au combat, chevalier.
Bonjour.
Ça vous plaît ?
Oui, c'est la curiosité. Oui, non, c'est assez surprenant. C'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de... Hein, Bruno, t'en penses quoi ?
Oui, bah, c'est le côté un peu de voir que déjà à l'époque, il y avait ce genre de bouquins, de dessins, etc. Quoi. C'est ça qui est le plus étonnant, alors qu'on a toujours l'impression que c'était beaucoup plus moral et tout ça.
Oui, justement, on les cachait, on les voyait pas.
Oui, on les cachait, mais c'est intéressant de voir que ça existait.
Comment ça s'appelle, ça, cette espèce d'image ? D'ailleurs, ça doit être écrit là. Pièce anglaise à transparent obscène. Gravure à l'eau forte doublée. Début du 19e siècle.
Bah, disons que c'est beaucoup de scènes. Enfin, on voit beaucoup d'ecclésiastiques, on voit beaucoup de nobles, mais on voit pas les milieux ruraux, ce qui peut se passer dans les milieux ruraux.
Il y a peut-être un milieu.
Voilà, c'est vrai que ça a l'air propre à un certain milieu. Par contre, on voit pas beaucoup de scènes pastorales en la matière.
pour nous.
Non, non, c'était bon, simplement peut-être qu'on interdisait au bas peuple ce que les nobles et le clergé se permettaient en cachette.
Or, en dansant, elle s'approche, elle gambille, elle ricoche, elle vole comme un fétu. Dans ses étranges pirouettes, elle branle des castagnettes faites de couilles d'un pendu. Qu'est la femme et d'où lui vient ce pouvoir magique qui fait qu'elle trouble la tête et blesse les cœurs de moines, de sages, de sénateurs, des membres du nouveau et du vieux conseil de la Carinthie? Quelle est cette force qui soumet à l'empire de l'amour les sultans, les princes, les rois, les empereurs, les cardinaux et les papes lui-même? Qu'est-ce qui produit cette émotion, cette attraction, qui font rester quoi les savants, les docteurs et toute la Sorbonne? Ventre bleu. Qu'est-ce donc la femme? Et d'où lui vient ce pouvoir magnétique? Baf va vous le dire. Elle a un con.
À cette époque, ces ouvrages sont considérés comment? Comme immoraux? Comment on les considère?
C'est-à-dire qu'en général, ce sont des ouvrages qui ont été publiés sous le manteau. Ce ne sont pas des ouvrages pour lesquels l'imprimeur ou l'éditeur a demandé un privilège. Il sait d'emblée que ça lui serait refusé, puisque ce sont des ouvrages qui sont contraires aux mœurs. Et donc, ce sont des ouvrages qui circulent clandestinement. Ils sont éventuellement dans des bibliothèques de lettrés, mais ils sont il y a la bibliothèque, je veux dire, du lettré, de l'honnête homme, et puis éventuellement derrière se cache comme une sorte de petit cabinet ou des choses que l'on montre à très peu de personnes ou que l'on lit en solitaire et qui sont ces livres-là, puisque ces livres en fait sont réservés quand même à une minorité. D'ailleurs, à l'époque, peu de gens lisent véritablement, ont le temps de lire. C'est vraiment les gens très très privilégiés. Et ces romans, leur caractéristique, c'est vraiment, le plaisir, la volupté. Ça se passe dans des couvents, ça se passe dans des bordels. Et le bordel est quelque chose de très, très gai. Et le bordel permet d'ailleurs d'accéder à une vie agréable, en fait. Le bordel n'est pas quelque chose de triste. Enfin, c'est considéré comme quelque chose, d'assez attrayant, en quelque sorte.
Ça fait combien de temps que vous attendez?
Là, ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes, c'est raisonnable. Je ne pensais pas que l'exposition aurait tant de succès, pour tout vous dire.
Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de l'exposition? Vous avez lu un petit peu ou pas?
C'est un peu une découverte. Hein. Ah ben, on pense que c'est des images érotiques, etc. Enfin, on espère.
Mes petites! Lorsque l'on soupe en cabinet particulier, il faut souvent offrir sa croupe et travailler du trouculier. Quand l'épine voit la pêche, dans le canal que je vous dis, coiffez-les d'une peau de pêche autour de leur gland rebondi. Et puis, graissez d'huile à salade, le trou du cul récalcitrant pour faciliter l'enculade. C'est quelquefois dur en entrant. Si votre amant n'est pas un âne, il vous emplira le vagin d'une souple et forte banane symétrique à son propre engin. Ainsi donc, la pine au derrière, la banane au con mal poilu, vous entrerez dans la carrière quand mes nénés n'y seront plus. Non? Pierre-Louis, 1889.
Oui, c'était les infortunes de la vertu. Non, c'est les...
Les infortunes de la vertu, c'est le manuscrit de Sade.
De Justine.
Oui, là, il parle de Justine. C'est un peu plus adouci que Justine et que la nouvelle Justine aussi. Et en fait, les infortunes de la vertu seront publiées plus tardivement, au XXe siècle.
C'est, il écrit ça à la Bastille.
Ça, il écrit ça. Josué, oui. Les infortunes, il l'écrit à la Bastille ou pas ?
Oui, c'est écrit à la Bastille en 1787-88, mais est resté inédit jusqu'à sa publication intégrale en 1930 seulement, qu'on verra à l'autre bout de l'exposition.
Il reste sulfureux et subversif, ça, il n'y a rien à faire. Hein.
Ah oui, oui.
Oui, ça, il n'y a rien à faire. Oui. C'est irrécupérable.
Peut être aussi, dans certains textes, assez drôle. Enfin, par exemple, La philosophie dans le boudoir est un texte à la fois cruel, en quelque sorte, mais aussi assez drôle.
Mon ami, c'est de la nature que les roués tiennent les principes qu'ils mettent en action. Je t'ai déjà dit mille fois que la nature, qui pour le parfait maintien des lois de son équilibre a tantôt besoin de vice et tantôt besoin de vertu, nous inspire tour à tour le mouvement qui lui est nécessaire. Nous ne faisons donc aucune espèce de mal en nous livrant à ces mouvements, de telle sorte que l'on puisse les supposer à l'égard du ciel, mon cher chevalier. Cesse donc, je te prie, d'en craindre les effets. Un seul moteur agit dans l'univers, et ce moteur, c'est la nature. Les miracles, ou plutôt les effets physiques de cette mère du genre humain, différemment interprétés par les hommes, ont été déifiés par eux sous mille formes, plus extraordinaires les unes que les autres, des fourbes ou des intrigants, abusant de la crédulité de leurs semblables, ont propagé leur ridicule rêverie, et voilà ce que le chevalier appelle le ciel, voilà ce qu'il craint d'outrager. Les lois de l'humanité, ajoute-t-il, sont violées par les fadaises que nous nous permettons. Agis donc, chevalier, agis donc sans rien craindre, nous pulvériserons cette catin qu'il n'y aurait pas encore le soupçon d'un crime. Les crimes sont impossibles à l'homme, la nature en lui inculquant l'irrésistible désir d'en commettre, sut prudemment éloigner d'eux les actions qui pouvaient déranger ses lois. Va, sois sûr, mon ami, que tout le reste est absolument permis et qu'elle n'a pas été absurde au point de nous donner le pouvoir de la troubler ou de la déranger dans sa marche. Aveugle instrument de ses inspirations, nous dicta-t-elle d'embraser l'univers, le seul crime serait d'y résister, et tous les scélérats de la terre ne sont que les agents de ses caprices. Allons, Eugénie, placez-vous.
Un fume sans queue ni tête. Que voulez-vous savoir ?
Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Il paraît qu'il est licencieux.
Ah oui ? Mais on en voit tellement maintenant que celui-là n'est pas plus choquant. Je le retrouve beaucoup de charme, moi, à ce genre de film.
Il n'y a que des femmes autour de nous qui regardent, c'est marrant. Hein, ouais. Ouais. C'est un film de quelle époque ? Ça se passe dans un atelier de couturière de...
Oui, à mon avis, 1920, 1930. Oh, et encore à la longueur des jupes, c'est peut-être même un peu plus tard. Je sais pas. Franchement, je sais pas dire.
Bon, évidemment, muet.
Mmh. Avec des très jeunes filles. C'est très amusant, toute cette tenue de grand-mère, toute cette dentelle. En général, c'est quand même plus excitant de voir une femme se déshabiller qu'un homme, non ? Vous trouvez pas ça, même en tant que femme, plus excitant ? Enfin, moi, je sais pas, ça m'excite pas de voir les hommes se déshabiller.
Mais une femme, oui.
Mmh. Je trouve ça plus joli. Mmh. Mmh. J'aime les deux. Les courbes sont tellement plus jolies. Ben, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça mignon. Les amours saphiques.
Mmh. Donc, et là, il y a une partie qui y est consacrée dans l'exposition ou c'est un peu réparti partout ?
Mmh, c'est un peu réparti partout, je trouve. Mmh.
Là, c'est saphique. Hein.
les yeux, les mains, les bouches s'étendent en longues caresses sur des contrées étranges. On effleure plus on touche, les tétons se redressent, les bas-ventres démangent. Les souffles s'harmonisent, les langues s'interpellent et repartent en errance. Le bout des doigts s'aiguise, bras, jambes s'entremêlent, l'entrecuisse fait bondance. Les bouches deviennent gloutonnes, elles mordent la chair tendre. La pensée s'évapore en volute tourbillonne. Les temples se font prendre, on pénètre, on ressort. Et commence la danse. Et commence la danse. Corps à corps en souplesse, incroyable prouesse. Perpétuel mouvement, balancement, frottement. Le rythme s'accélère, des sons, des cris, des râles. Un parfum lourd s'échappe, ivresse, ivresse. Les corps s'écartent, les corps se serrent. Les corps s'écartent, les corps se serrent. Et reprennent le bal. Et reprennent le bal.
Mon cher prieur, il faut se rendre à tes demandes réitérées. Oui, je vais te faire le récit des actions lubriques de ma vie. Je vais te tracer le tableau de mes jouissances. Ton âme, bouillante de volupté, ne pourra se contenir. Et je te vois déjà la pique en main faire ruisseler à gros bouillons cette liqueur divine renfermée dans d'énormes couillons. Moi, de mon côté, crois-tu que je pourrais résister à tant de tentations ? Ma plume s'échappera plus d'une fois de ma main et mon index se portera naturellement vers cette partie que la nature a formée pour nous faire oublier les vicissitudes de la vie. J'ai reçu de la nature une âme de feu et la vie oisive et sédentaire du cloître entretient mon ardeur. N'ayant que cette jouissance, je ne vis et ne respire que pour elle. Tous mes soins sont portés là. Au pied des autels même, je ne pense qu'au plaisir dont tu m'enivres. Ah, je ne puis en parler sans éprouver un frémissement involontaire. Mon cher prieur, que les jours sont longs pour qui attend de douces nuits. Dans cette retraite, tout nous favorise, et l'on est loin de penser que dans cet asile solitaire et consacré à la divinité, l'amour règne avec tant d'empire. Un public curieux ne porte point ses regards sur nos actions. Elles sont toutes dérobées à son inquiète jalousie. Un voile épais nous environne, et nous jouissons à l'ombre du mystère. Grâce à mes bons soins, je n'ai pas une de mes religieuses qui ne soit animée des mêmes désirs. Je les ai toutes formées suivant mes préceptes. Et en vérité, notre communauté fait le plus joli bordel de la terre.
Moi, j'aime beaucoup. Je viens d'être une artiste censurée, donc ça m'excitait beaucoup de venir ici.
Censurée pourquoi ?
Pour une je fais du nu féminin en sculpture. Et donc j'ai été censurée parce que je pouvais pas montrer mes nus, donc ça m'excite beaucoup de voir que depuis la nuit des temps, il y a eu des images bien pires que celles que j'avais envie de montrer à travers mes sculptures.
Donc on peut encore censurer de nos jours ?
Oui, absolument. Il paraît qu'il y a même un retour à la censure. Mais les gens, certains, s'indignent justement de ce retour à la pudibonderie. Ou c'est peut-être qu'on est lassé aussi de trop de nus, trop de la pub dans tout, et donc on mélange un peu tout.
Là, pendant ce temps-là, il y a un monsieur qui est arrivé au milieu des deux femmes.
À la fin de ce film tout à l'heure, oui. Ouais, donc en fait, les jeunes filles sont dans un bordel, quoi. Elles reçoivent des messieurs.
Mais et qu'est-ce que ça vous apprend sur la censure, cette exposition ?
Que de toute façon l'érotisme a toujours existé et que la censure c'était une manière de rendre très excitant certaines choses que tout le monde connaissait, mais à partir du moment où on interdit, on a envie de savoir, justement on a envie de connaître, non?
cacher, le fait caché de l'interdit, ça suscite la question et l'envie. Hein?
Vous avez raison, c'est très, très osé, hein, ce qui se passe entre les deux femmes et le monsieur.
Oui, hein, ce sont des images assez licencieuses, hein, je reconnais. Donc ce film ne devait pas être diffusé partout. Hein.
Plus que licencieux, je crois qu'on pourrait le taxer de pornographique, non?
Oui. C'est de la gaudriole, hein. C'est assez vulgaire aussi. Ce n'est pas romantique, c'est pas de l'érotisme, hein, ça. C'est plus porno qu'érotique.
Vous avez vu de beaux textes?
Ben, j'en connaissais, j'aime bien de relire des extraits d'Apollinaire, d'Aragon, oui, ça me fait plaisir, de Bataille aussi, que je connaissais, oui, oui. Mais c'est très agréable de revoir des morceaux choisis comme ça. C'est
chouette. Vous lisez beaucoup de littérature érotique?
Oui. Surtout la littérature au féminin, oui. Je trouve que les meilleurs auteurs, mais parfois, hein, ce sont des hommes qui prennent un nom féminin, d'ailleurs, hein, pour écrire. Mais c'est quand même souvent des femmes qui écrivent des livres érotiques. Oui. L'automne de Louis Aragon. La prise dans ses mains, la belle, la prise dans ses mains, la bite, la mise entre ses seins, la belle, la mise entre ses seins, la bite. Quand elle fut bien rouge, la bite, la plongée en sa bouche, la belle, la plongée en sa bouche, la bite, et bouge, et bouge, et bouge, la belle.
C'est l'extrait. Hein.
Merci. Je vous en prie.
La prise dans ses mains, la belle, la prise dans ses mains, la bite, la mise entre ses seins, la belle, la mise entre ses seins, la bite, quand elle fut bien rouge, la bite, la plongée en sa bouche, la belle. Et c'est le même Louis Aragon qui se réjouissait du retour de Maurice Thorez, revenant du RSS où il s'était fait soigner, et il disait, il revient, il revient. Et il chantait les joies de la GPU et les services soviétiques. Après avoir écrit le conte d'Irène et ces choses-là. C'est le même Louis Aragon. Oui. Ne tirez jamais qu'après avoir vérifié l'exécution des dernières corrections. Après tout ce qu'on vient de se mettre dans les oreilles, ces mots sont assez émouvants, n'est-ce pas? Ne tirez jamais qu'après avoir vérifié l'exécution des dernières corrections. Eh bien, c'est un tout petit mot à la main, de la main de Charles Baudelaire. Et sa signature, elle est en dessous de trois mots, bon à tirer. Eh bien, c'est au coin d'une page qu'on peut voir dans cette exposition à la Bibliothèque nationale, François Mitterrand, sur l'enfer de cette bibliothèque, je vous le rappelle, qui a été libérée et ouverte en 1969. Et que lit-on à côté de ce bon à tirer signé de Charles Baudelaire? Eh bien, un poème très court qui fut, à l'époque, interdit et donc classé dans cet enfer. Ça s'intitule « Le l'été ». « Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, tigre adoré, monstre aux airs indolents, je veux longtemps plonger mes doigts tremblants dans l'épaisseur de ta crinière lourde, dans tes jupons remplis de ton parfum, ensevelir ma tête endolorie et respirer comme une fleur flétrie le doux relent de mon amour défunt. » Pour avoir écrit ces vers-là, on était promis et jeté en l'enfer, un enfer de papier, un enfer littéraire, mais un enfer tout de même. Alors voilà, toutes les conclusions que l'on peut tirer, tout ce que ça dit d'une époque, d'une autre, d'un siècle, d'un autre qui, le nôtre, qui est, enfin, le 20e au moins, qui a voulu se libérer, s'affranchir dans ces terribles années 50 et 60. On rend hommage, évidemment, dans cette exposition, à Jean-Jacques Pauvert et à d'autres, et à tous ces pionniers qui ont voulu tordre le cou de la censure et nous faire découvrir ce continent formidable de la littérature érotique, de l'érotisme, de tout ce qui avait fait la splendeur des Lumières, très françaises, ces Lumières-là, et nous y reviendrons très bientôt. Mais on va se finir, si j'ose dire,
avec ceci.
Par ici, viens mon petit homme, y'a pas tant de monde, on n'y voit rien. Déboutonne-toi, tu verras comme je serai gentil et t'aimerais bien. Tu me donneras 6 sous pour ma peine, béni soit le nœud qui m'étreigne.
Ah, 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 c'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là.
C'est des boueux, n'y prends pas garde. Viens que je te magne ton petit outil. Vrai, j'avais cru que c'était la garde. Y bande encore et y gentil. Allons et que rien ne t'arrête. Fais-moi cadeau ta petite purette.
Ah, 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 c'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là.
Et j'en ai-t-il de la veine tout de même. T'as du beau linge et tu marié. T'es beau et t'as des yeux que j'aime. Tu dois au moins être épicier. Ou même représentant de la chambre. Jouis donc cochon. Ah le beau membre.
Ah, 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 c'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà.
J'ai beau manier ta petite affaire, quoi donc que t'en finis pas. C'est qui t'aurait trop bu de la bière, ou bien ma gueule qui te revient pas. Pense à une femme qui aurait de belles cuisses, ou bien pense à l'impératrice.
Ah, 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 c'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là.
Qu'est-ce que tu dis, capote anglaise? Mon cul est aussi propre que le tien. Je me fous pas mal de ta braise. Tu peux t'en tourner d'où tu viens. Qui m'a foutu cette espèce d'andouille? Qu'a seulement rien dans le fond de ses couilles.
Ah, 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 c'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là.
Et rien poireau si tu supposes que je vais te la sucer pour 20 ronds. Allons à boule encore quelque chose. Tu verras si la pompe à fond. Tiens, y a le fils à monsieur Auguste qui me donne 30 sous quand je la lui suce.
Ah, 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 c'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là. C'est une patrouille, attends, voilà. Entretiens-toi pendant ce temps-là.
Et des marlots de ma connaissance. Mais par où donc il a passé? Que j'ai fini sa petite jouissance. C'est-il vous, monsieur, que j'ai commencé? Et non, ça c'est pas chouette tout de même. Ça qui a dû se finir sous moi-même.
Ah, 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 crénom de Dieu, crénom de là. Faut pas crédit dans ce métier-là. Crénom de Dieu, crénom de là. Faut pas crédit dans ce métier-là.
Prendre son temps pour visiter votre...
Alors, c'est pas terminé, mais tout à l'heure, comme je vous ai entendu dire que l'odeur du foutre, c'était les marronniers en fleurs, donc on a mis cette édition de José Pierre, et c'est une édition qui a été faite par Le Soleil Noir, et Le Soleil Noir a une caractéristique, il fait en général 3 séries, une série... C'est, l'ouvrage est ordinaire, une deuxième série un peu plus compliquée et une série bibliophilique. Et celle-là est la deuxième série, c'est-à-dire qu'en fait, l'ouvrage qui est dans un étui, pour le lire, il faut couper les scellés. Mmh. Et en fait, c'était aussi pour dire que nous avons consacré à peu près 900 mètres carrés à cette exposition et que peut-être nous n'en savons pas plus qu'avant.
C'est pas peut-être, c'est sûr. Et c'est tant mieux. Merci à Marie-Françoise Guignard, à Josué Sequel de la Bibliothèque Nationale de France. La comédienne, cette voix, c'était celle de Florence Bott. Le reportage, c'était Anne Rioux. Je rappelle que l'exposition L'Enfer de la Bibliothèque Nationale, Héros ou Secret, dure jusqu'au 22 mars au site François Mitterrand de la BNF qui se trouve quai François Mauriac dans le 13e arrondissement de Paris. Un livre, beaucoup de livres évidemment dans ce domaine à signaler, mais celui d'Emmanuel Pierrat aux éditions Duchesne, le livre des livres érotiques est très beau, et puis beaucoup de livres à la Musardine notamment, qui est un bon éditeur. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission.
ainsi que sur labas.org. Pascal Baldassari et Eric Morin ont tenu la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Corinne Guyenne ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attends vos messages au 01 56 40 37 37.
Que les chiens sont heureux dans leur humeur badine. Ils se sucent la pine, ils s'enculent entre eux. Que les chiens sont heureux.